Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous les zinzins de l'Undercut, ton podcast Formule 1 préféré. Et c'est tous les lundis sur rmc.fr et sur les plateformes de téléchargement. Les ingénieurs du paddock RMC du jour, Hamza Rahmani, Louis Gerbier et Romain Leroutier. Salut les gars.
Salut Nico.
Bonjour à tous.
Salut tout le monde.
La bonne nouvelle, c'est que Hamza n'a pas fait une Oliver Berman. Il est encore avec nous. Et ça c'est fort.
Écoute, c'est fort. J'espère avoir d'aussi bons résultats que notre ami Oliver au volant de la Ferrari.
Eh ben on te le souhaite en tout cas, comme dit un collègue à nous, pas dans le même sport. On est entre le Grand Prix de Monaco et le Canada, les gars. Et l'actu de la Formule 1 ne s'arrête jamais. Il s'est passé encore plein de choses cette semaine. Esteban Ocon, l'info vient de tomber, ne sera plus un pilote alpine l'année prochaine. C'est désormais officiel. Bon, c'était attendu, hein, c'est un secret de polichinelle. Mais une semaine après l'affaire Ocon à Monaco, dont on vous a énormément parlé dans le dernier podcast. Allez l'écouter d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas écouté le dernier numéro du paddock RMC. Eh bien, ça fait forcément jaser. Bruno Famin l'avait dit, il va trancher dans le vif. Il l'a fait. On va faire le bilan d'Esteban Ocon chez Alpine, où vous voyez Ocon la saison prochaine. Bref, il y a plein de petits débats, plein de possibilités également pour Ocon. Et puis on va surfer un peu sur cette actu parce que bon, ça a été chaud entre Ocon et Gasly depuis le début de saison. Ça le sera peut-être encore. Et on va parler des plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1 au sein de la même écurie. Parce que ça se castagne fort entre coéquipiers et puis elles ont forcément marqué l'histoire de ce sport. Parce que des fois, la Formule 1, c'est un peu plus que du sport. C'est la guerre!
Ça va péter! Vous allez fouiller! Vous attendez? Vous allez fouiller!
Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait.
Esteban Ocon, les gars, n'est plus un pilote alpine. Il va quitter l'écurie française à la fin de la saison, fin d'une collaboration de 5 ans. Il est vainqueur de Grand Prix avec une Alpine. C'était en Hongrie. C'est une aventure qui se termine. Le timing de l'annonce, en tout cas, je ne vais pas dire que l'aventure se termine mal parce qu'il reste encore des courses. Mais après ce qui s'est passé à Monaco, cet incident avec Pierre Gasly et cette sortie de Bruno Famin, le team principal d'Alpine qui l'avait dézingué et qui l'a dézingué clairement. Déjà, on va voir avec vous si cette annonce de son départ coïncide un peu avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Hamza, est-ce que pour toi, il y a un lien où, on le sait, Esteban est en fin de contrat, on savait qu'il cherchait autre chose, et finalement c'est plus un concours de circonstances dans la saison que ça fait que c'est tombé là?
Non, évidemment qu'il y a un lien, c'est uniquement à cause de ce qu'il s'est passé à Monaco que l'aventure s'arrête pour Esteban Ocon. De toute façon, il l'a dit, Bruno Famin, il allait trancher dans le vif, donc il a tranché dans le vif. Ça a le mérite d'être clair de la part du patron d'Alpine. Ce n'est absolument pas parce qu'Esteban Ocon n'était absolument pas, lui, de son côté, satisfait des performances de la voiture. Ce n'était absolument pas parce qu'Esteban Ocon, depuis le début de la saison, cherchait une porte de sortie, se sachant en fin de contrat, avec la possibilité d'aller trouver un baquet potentiellement plus performant ailleurs, puisqu'on rappelle qu'Alpine est l'une des écuries et aujourd'hui à la monoplace ou l'une des monoplaces les moins performantes aujourd'hui en Formule 1. Non, c'est vraiment pas pour toutes ces raisons. C'est vraiment parce que Bruno Famin a dit qu'il allait trancher dans le vif. Il a tranché dans le vif et du coup, Esteban Ocon se retrouve sans baquet en 2025.
Et il m'a fallu 20 secondes pour comprendre l'ironie.
c'est quoi? C'est une manière pour Famin aussi d'affirmer son autorité, là, cette annonce, ce timing, Louis?
Bah oui, c'est le coup facile. Moi, je suis Hamza là-dessus. Je pense que tout était bouqué et ficelé depuis un moment. On avait compris dans la communication d'Alpine qui avait fait un peu volte-face parce que jusque-là, il avait le droit aux nouveautés. C'était pas officiel, mais c'était quand même un petit peu plus le numéro 1 que Pierre. Et puis, on a bien vu depuis quelques temps, aux premières rumeurs d'un départ chez Haas, tout ça, que quelque chose se tramait en coulisses. Et alors là, mais alors quelle aubaine pour Bruno Famin que de ce virage au portier finalement qui leur coûte pas grand-chose. Mais lui, c'était une autoroute en com derrière pour devenir le patron. Je suis le grand patron qui sait taper du poing sur la table quand il faut et qui n'a pas peur de ses pilotes. C'est un super message envoyé, mais est-ce qu'on est vraiment dupe? Non.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, est-ce que c'est vraiment le grand patron là qui impose son statut de leader en faisant ça, Romain?
Bah, il fait beaucoup de changements. Alors, c'est sûr, il veut instaurer peut-être un côté leader, vu que c'est sa première expérience, hein, faut le dire, chez Alpine, en tant que team principal. Il change beaucoup de choses, beaucoup de personnes au sein de l'écurie, ne serait-ce qu'à Viry ou même à Enstone. Voilà, il a dû trancher dans le vif. Après, s'il a pris cette décision envers Esteban Ocon, c'est que probablement, il a quelques sécurités envers Pierre Gasly pour le faire prolonger, ou du moins le garder à l'issue de la saison. Est-ce que Pierre Gasly a dit bon bah finalement je reste, mais ou est-ce que il se dit peut-être que j'aurai pas de meilleur baquet la saison prochaine, ou ça va être trop compliqué, vaut mieux se sécuriser une place, je sais pas. Mais pour l'instant, Bruno Famin, quoi qu'il en soit, prend ses décisions, et lors du bilan sera la fin de la saison pour lui.
Non mais plus sérieusement, Nico, et très rapidement, moi j'ai l'impression en fait qu'on savait du côté d'Alpine qu'Ocon allait partir.
Bah oui.
Et qu'en fait, on a juste profité de ce qui s'est passé à Monaco pour s'asseoir tous autour d'une table et dire, écoute, Esteban, je sais que tu veux quitter Alpine à la fin de la saison, que tu es en fin de contrat, que tu recherches un bac ailleurs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simple. On va juste officialiser publiquement ta volonté de partir. Nous, comme ça, publiquement, on sait qu'il y a un bac est libre. On va travailler sur... Même si j'imagine que du côté d'Alpine, on a déjà commencé à travailler avant, mais on va commencer à travailler sur la recherche de ton successeur. Et puis voilà, ça s'est fait, je pense, en bonne intelligence.
Et est-ce que c'est aussi un message envoyé à Pierre Gasly, comme pouvait le dire Romain, Hamza, pour toi, en mode bon bah ça y est, c'est officiel, on se sépare d'Esteban, même si tu le savais, voilà, on veut construire avec toi.
Ouf, je suis pas convaincu, dans le sens où là encore une fois, c'est juste un avis. Si Pierre Gasly avait eu l'opportunité de trouver un baquet plus performant ailleurs, je suis pas sûr que de son côté il aurait tout fait pour s'accrocher au volant Alpine. Voilà, c'est juste que les baquets sont en train tous plus ou moins d'être pris. Il en reste 2-3, j'ai l'impression, pour la prochaine saison, et que mine de rien, Alpine, ça reste une écurie l'un des constructeurs en Formule 1, donc c'est quand même hyper important aujourd'hui pour un pilote. Maintenant, côté Gasly, je vois pas l'intérêt de rester juste pour une seule saison. Ça veut dire qu'on va penser à 2026, ce qu'il se passera avec le changement de réglementation. Et peut-être, là, on va croiser les doigts pour avoir une Alpine de retour au sommet.
Ouais. Qu'est-ce qu'on retient du coup du passage d'Ocon chez Alpine ? Quel bilan on peut en faire, Louis ? Il y a bien sûr cette victoire en 2021 qui était assez incroyable pour la marque française. Mais je le disais tout à l'heure, ça se termine un peu comme... C'est un divorce, là, on a l'impression. On l'a vu, la tournure que prend cette saison, voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a cette sensation quand même d'inachevé un peu.
Ah bah complètement, parce que...
Alors la saison n'est pas terminée, hein, mais bon.
Loin de là, mais on s'attend à pas grand-chose du côté d'Alpine, on en a déjà parlé ici, on s'attend à quelques points de temps en temps au mieux. Donc oui, globalement, on sait que l'aventure Esteban Ocon se terminant à la fin de la saison avec Alpine, ça aura été un mariage gâché. On se rappelle de son arrivée, il revient après un an d'interruption où il redevient troisième pilote chez Mercedes, il se fait les nuits en Angleterre dans le Simu, alors qu'il était déjà pilote de F1 confirmé. Donc il revient avec plein d'envie en tant que pilote français dans une écurie française, et avec un projet de faire de grandes choses. Et puis le bilan, c'est pas ce qu'il imaginait. Je pense que si on l'avait autour de la table, qu'il pouvait parler en toute honnêteté, il nous dirait que c'était une grande déception, parce que je pense qu'honnêtement il avait de l'espoir. Et puis que je pense aussi qu'en tant que pilote français, avec l'histoire qu'il a eue avec Viry et tout, il avait vraiment envie de réussir dans cette écurie. La victoire en 2021, elle est magnifique, mais il faut aussi le rappeler un peu le contexte. On a quelque chose qui n'arrive jamais, on se retrouve avec Hamilton qui part tout seul sur la grille. On n'avait jamais vu ça. Il tient l'Aston Martin une seconde deux tout le Grand Prix de manière magnifique. Mais Benoît Paire te dirait ce qu'il en pense de cette victoire. Donc c'est quand même beaucoup de chance ce jour-là. On a un très beau Monaco. Voilà, c'est quelques beaux souvenirs, tout ça. Mais rien de plus. Donc c'est, ouais, moi, je reste déçu.
Est-ce que tu peux espérer plus avec Alpine au vu des autres?
Non, il n'a jamais eu la voiture pour. Hein. Oui. Je ne remets jamais en cause le talent d'Esteban. Hein. Je parle vraiment qu'il n'a pas pu faire les choses. Et parce que moi, ce que j'ai lu là depuis une semaine, tu sais, hier, il a mis un gros thread pour clarifier.
J'allais en parler.
Ouais, j'y vais du coup.
Non, mais vas-y, mais. je vais juste vous lire la déclaration d'Ocon, mais
si tu veux, tu peux la lire avant, peut-être, enfin comme tu veux.
Il est sorti du silence après cet incident avec Gasly à Monaco, où c'est vrai qu'il avait été très convenu dans ses propos après la course, même s'il avait fait un petit tweet pour dire que c'était de sa faute. Bon, je pense qu'il a vraiment attendu que ça redescende un peu, voilà. Mais il a dit les déclarations déformées, les désinformations grossières que j'ai vues en ligne ces derniers jours quant à ma capacité à travailler avec une équipe sont inexactes, blessantes et préjudiciables. Donc voilà, il a dit j'ai commis des erreurs honnêtes, mais nous ne sommes pas des robots, nous sommes des athlètes qui repoussent leurs limites chaque jour pour réaliser leur rêve de gagner des courses. Donc bon voilà, voilà, c'est un peu ce qu'on disait nous dans l'épisode de la semaine dernière.
Moi si j'avais pu liker son tweet 10 fois, je l'aurais fait, parce que vraiment la semaine dernière j'ai dit que j'étais complètement en phase sur le fait que c'était son erreur, que c'était un move qu'il n'avait pas à faire. Mais on parle de sport, de piste, c'est un pilote de F1, et enfin ça arrive. Enfin je veux dire, tout ce qui a été dit derrière, remettre en cause son parcours, son histoire, sa personnalité potentielle. On va où là déjà? Enfin un peu de respect, il n'y a pas de raison de tomber si bas dans les critiques, je trouve ça vraiment odieux. Et derrière, enfin ça peut arriver, il en assume les conséquences, et voilà, et on va pas plus loin que ça, quoi. Je trouve aussi, on a maintenant dans le supporterisme de plus en plus ce côté à aller dans les attaques perso, dans les choses comme ça. Esteban Ocon a fait une erreur de course. Oui.
Mais moi, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Ouais, parce que c'est un vrai lynchage à un moment sur les réseaux. Hein.
Et justement, moi, parmi les nombreuses critiques, il y a un thème qui ne m'a vraiment pas plu, c'est le côté Esteban, il a des problèmes avec tous ses coéquipiers.
Voilà, ouais, non, détestable.
On va faire juste déjà la liste des coéquipiers. D'accord ? Aujourd'hui, c'est Pierre Gasly. Mm-hmm. Hier, c'était Fernando Alonso. Mm-hmm. Avant-hier, Daniel Ricciardo. Et avant-hier, Sergio Perez. Mm-hmm. Donc, que des pilotes soit confirmé, soit double champion du monde. Voilà, donc on a que des vainqueurs de Grand Prix, déjà, puisque Pierre Gasly aussi a remporté un Grand Prix. Que ce soit chez Force India ou Ocon Perez, c'était très très chaud, mais ça vient aussi des deux. Hein. Esteban est aussi responsable que Sergio. Derrière, Ricciardo, ça s'est plutôt bien passé.
Oui.
D'ailleurs, pour sa saison de retour, on a tendance à l'oublier parce qu'il y avait cette
histoire
de Perez à Sakhir, mais sur ce même GP, qui était d'ailleurs totalement fou, Ocon, il signe le premier podium de Renault.
Ouais. Bien sûr.
Cette saison-là, il signe son premier podium en fin 2020 à Sakhir. Puis derrière, tu as comme coéquipier Fernando Alonso. J'ai l'impression quand même qu'il a profité aussi de l'expérience d'abord d'un Perez, puis d'un Ricciardo, puis d'un Alonso pour aussi améliorer et divertir son panel au niveau du pilotage. Il va signer la seule victoire depuis le retour de Renault, devenu Alpine. La seule victoire, c'est Esteban Ocon qui va la chercher. Et tout à l'heure, tu parlais de chance en Hongrie. Faut le tenir, Sébastien Vettel.
Ah oui, non, mais j'ai dit, il le tient.
70 tours.
Il le tient à une seconde de tout le Grand Prix. Mais je veux dire, pour en arriver là, il a fallu quand même un coup du sort au premier tour. Bah,
disons que le concours de circonstances arrive effectivement au premier tour. Après, il y a quand même 70 tours.
Il peut très bien finir 4 ou 5 avec les mêmes circonstances. Derrière, il fait un.
Là où on n'est pas dans un outil une volonté de comparer à chaque fois les deux, les mettre en opposition. Mais la victoire d'Ocon en Hongrie, c'est autre chose que la victoire de Gasly, par exemple, à Monza, où lui bénéficie d'une circonstance de course monumental qui est un drapeau rouge qui lui permet de faire un changement gratuit. Tu te retrouves avec des pilotes de fond de grille qui protègent entre guillemets le top 2, le top 3 dont faisait partie Gasly par rapport aux voitures les plus performantes. Enfin attention,
t'as quand même Sainz qui lui
mais
qui
après
lui la fin de course
sur les 10 derniers tours, voilà, c'est semblable, mais
bien sûr,
oui c'est pas 60 tours
Ocon, c'est 60 en Hongrie que Gasly à Monza.
Je sais pas. Sur la piste.
En tout cas,
Vettel a apporté moins de pression à Ocon que Sainz en a apporté à Gasly.
En tout cas, la seule victoire, c'est Esteban qui va la chercher. Derrière, il y a les quelques podiums également. Il y a des résultats plutôt performants, plutôt réguliers dans la performance. On le voit encore cette saison, c'est lui qui porte sportivement, en tout cas, cette écurie. Au moment de faire le bilan d'Esteban Ocon chez Renault Alpine. Attention à ne pas oublier quand même toutes ces 5 années, et ça a été quand même le pilote qui, depuis le retour, a eu, à mes yeux en tout cas, les meilleurs résultats.
C'est un pilote qui maximise très souvent.
Ouais. Ce qu'on disait dans le podcast de la semaine dernière, qui est capable de surperformer et de tirer vraiment, de bonifier une voiture quand cette voiture n'est pas très performante. Du coup, il va où, Romain Esteban Ocon, l'année prochaine? Parce que moi, je me suis aussi dit, bon, c'est le bon timing pour l'annonce. Voilà, en effet, comme dit Hamza, moi, je partage complètement ce que dit Hamza, c'est qu'ils se sont mis autour de la table. Bon, maintenant, c'est trop, c'est parfait, on peut officialiser après ce qui s'est passé. Mais je me suis aussi dit, est-ce que le timing de cette annonce, c'est pas parce que Esteban Ocon, il a trouvé quelque chose et qu'il va l'officialiser dans peu de temps?
Peut-être qu'il a trouvé un baquet du côté de chez Mercedes. Ça serait étonnant de la part de Mercedes, sachant que ils l'ont dit, hein, ils veulent Verstappen, mais bon, ça s'avère compliqué.
Pas le même prix, je crois.
Comment ?
C'est pas le même prix, je crois.
Ouais, mais non, mais ça s'avère compliqué. Et puis Verstappen, dans tous les cas, il est en contrat jusqu'en 2028, si je me trompe pas, ou 2029. Lui, rien ne lui autorise à, enfin, pas lui autorise, mais il a pas besoin de prendre une décision maintenant.
Ah, rien ne l'empêche.
Ça laisse dans l'attente Mercedes et Ocon. Bah, il a besoin d'un baquet rapidement. Mercedes, voilà, il a toujours fait partie de Mercedes Ocon. Pourquoi pas le tenter ? Ça te permet d'avoir un pilote confirmé. Avec Russell aussi, d'avoir deux pilotes, un duo performant chez Mercedes. Pourquoi pas, ça pourrait être
toi,
une bonne solution.
Bon, alors moi, je vais vous poser la question autrement. Justement, je vous pose la question autrement. Vous avez un bifton là de 50 euros dans les mains.
On est journaliste, Nico, on n'a pas de bifton.
50 euros à pilote, tu ne vas pas aller loin.
Écoutez, on a un petit peu de budget, nous, pas d'autres RMC. Je vous mets un petit billet de 50 voilà, dans les mains. Et vous devez le poser sur Mercedes, sur Sauber, sur Haas pour Ocon l'année prochaine en Formule 1. Tu le mets sur qui, Louis ?
Alors, moi, je mets mon billet sur As, même si j'ai pas du tout envie que ça se fasse. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je pense, par rapport à ce que je ressens ces derniers temps, que j'ai l'impression que c'est ce baquet qui se dessine. Et derrière ça, je comprends pas une seconde pourquoi Esteban irait là-bas. Mais ça reste quand même les 50 euros là que je les mets ici, parce que Sauber, c'est 2026. Est-ce qu'il irait maintenant ? Je suis pas sûr. Il y a Sainz qui est pour moi toujours un peu devant. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. C'est As.
Romain ?
Pour moi, je le mets chez Mercedes direct. C'est sa seule occasion d'aller dans une grande écurie. Et même si c'est que pour une année et que derrière, je sais pas, ils apportent d'autres pilotes ou
je sais pas, l'ami Toto, ils arrêtent pas de parler d'Antonelli. Là.
Oui, ouais. Bien sûr, mais tu vas pas mettre Antonelli dans une Mercedes directement. Tu vas le faire démarrer chez Williams à la place de Sargent.
Il pourrait être le bouche-trou, tu veux dire, d'Antonelli.
Ça constituerait plus une opportunité. Pour Ocon, en une saison, sachant que Russell, cette saison-là où Hamilton va partir, il n'a pas plus montré un leadership énorme. Donc si Ocon arrive chez Mercedes et qu'il apporte son leadership et qu'il montre qu'il en veut et que les résultats vont avec, derrière, ça lui laisse la place pour...
Il a tout à gagner
en allant chez Mercedes. Et je suis pas sûr qu'il ait une meilleure opportunité ailleurs.
Moi non plus.
Hamza,
est-ce que la question, c'est est-ce que Mercedes veut d'Ocon ?
Oui, voilà.
Exactement. C'est ce que j'allais vous demander.
Quand tu parles du cas Antonelli, comme quoi ce serait pas forcément la meilleure période. Moi, justement, je trouve que c'est la meilleure possibilité, la meilleure période pour Mercedes aujourd'hui de lancer un jeune de 17 qui aura 18 ans, en l'occurrence Kimi Antonelli, même après une seule saison de Formule 2. Pour la raison principale, c'est qu'aujourd'hui Mercedes ne joue pas devant. N'a pas la monoplace pour performer. Il y a une monoplace pour jouer régulièrement des Q3. Donc, bénéfice risque, il est minime quant au fait de mettre et de titulariser directement Andrea Kimi Antonelli, dès la saison prochaine chez Mercedes. Donc, plus la Mercedes a des difficultés, et plus je trouve que ça augmente la possibilité pour l'Italie, le jeune Italien d'être titulaire dès la saison prochaine. Et pour répondre à ta question, Nico, déjà, si j'ai 50 euros, je les garde dans ma poche.
Bien évidemment. Il m'a pas parlé de mon billet, il s'est barré avec.
Non, mais... j'ai l'impression, encore une fois, il n'y a pas d'info, hein, c'est un ressenti, j'ai l'impression que chez Audi aujourd'hui, la priorité reste Carlos Sainz et que tout autre pilote sera un plan B. Voilà, maintenant, mieux vaut-il être un plan B si Sainz refuse du côté d'Audi ou un plan A chez Haas ? Chez Haas, tu auras toujours cette limite, ce plafond de verre qui est Ferrari, parce que tu es motorisé par Ferrari. Maintenant, si Ferrari a un moteur hyper performant, notamment pour l'après 2026, ça peut être une écurie là aussi pour jouer des Q3. Maintenant, si toi, ton ambition, c'est d'aller remporter un championnat, mieux vaut rester chez une écurie... comme Audi qui deviendra un constructeur en F1.
Franchement, Ocon chez Haas, ce serait dur quand même.
Ouais. Non, mais après, j'espère que c'est moi qui ai tort. Hein.
Après, 2024, Haas, c'est meilleur que Alpine. Donc, c'est une
transition. Oui,
non, mais clairement. Sur ces deux saisons, enfin, lui, du coup, à partir de 2025, mieux vaut être chez Haas que chez Alpine. C'est terrible à dire, mais c'est le constat.
Ouais, mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de rumeurs qui disent que sur le point de vue moteur pour 2026, du côté Mercedes, c'est quand même très très confiant et ça pourrait être une bonne solution pour Ocon.
Oui, mais ça part du principe que Mercedes veut installer Esteban Ocon, encore une fois.
Oui, bien sûr. Pas... Moi, je pars du côté de Ocon, hein, que c'est la meilleure opération pour lui. Après, pour Mercedes...
Il est toujours dans le giron Mercedes, quand
et
même.
Et puis, hein, il est toujours en lien avec Toto. Ouais.
Il y a une autre option aussi. Esteban Ocon va chez Haas, par exemple, pour une saison.
Oui.
Et puis, 2026, on redistribue les cartes. Carlos Sainz, peut-être, lui disait... Enfin, là aussi, ça, ce sont des sons de cloche, mais on entend tout et son contraire, notamment concernant Carlos Sainz, que lui ne voudrait finalement qu'un contrat d'une seule saison pour être encore sur le marché en 2026. Peut-être qu'en 2026, on aura de nouveau des cartes qui seront redistribuées et qu'il y aura d'autres paquets qui suivront.
T'auras comment Alonso qui prendra sa retraite parce qu'il en aura marre avec Aston Martin et peut-être. Du coup, il y aura peut-être. Une place en plus.
Vous voyez forcément Esteban avec un volant l'année prochaine?
Je pense qu'il lâcherait pas son paquet pour rien, je pense. Enfin, moi, je le vois vraiment avec un volant F1.
Est-ce qu'on le voit aller dans une autre discipline que la F1? Je suis pas sûr.
Non, d'ailleurs, l'année, c'est pas du tout le même contexte, mais l'année où il est pilote de réserve, il a pas cherché non plus à être mis ailleurs, quoi. Je vois pas ça. Je sais pas toi, Hamza.
Pareil, non. Ouais. Je pense qu'il a l'assurance. J'en sais rien, mais je pense que des négociations, en tout cas, sont forcément bien entamées avec une écurie pour que. Dès le début de saison, il soit à la recherche d'un baquet et qu'aujourd'hui, il accepte, entre guillemets, cette séparation.
Mmh. Et Louis, la fin de saison, on la sent comment là? Et après, on partira sur autre chose, sur les plus grandes rivalités de l'histoire de la F1 au sein d'une même équipe. Mais il reste quand même 16 courses, c'est beaucoup. Et il va falloir composer après cet événement de Monaco. Après, même si c'était une annonce, là, son départ qui était attendu, on le redit. Mais quand même, voilà, ça peut marquer une rupture aussi un peu.
Oui, ça change le contexte quand même. Tu as donc un pilote qui part à la fin de la saison. Donc normalement, toutes les évolutions, toutes les infos, il va commencer, lui, à être mis relégué clairement à la deuxième place.
Est-ce qu'il en a beaucoup?
Ouais, on attend que, bon, du coup, l'évolution qu'il y aura dans 2 mois ou quoi, enfin bref, elle sera pour Pierre. Sur un côté teammate, tu sais, il a été beaucoup critiqué aussi pour ne pas être un bon coéquipier. Je pense qu'il va plutôt bien se tenir parce que s'il est en train de négocier un baquet, il ne faut pas non plus qu'il soit trop foufou. Et puis, il a pas trop intérêt. Je pense qu'il va continuer à se battre et jouer le jeu parce que je le vois vraiment comme un bon gars à ce niveau-là, professionnel, et surtout, c'est dans son intérêt. Et dernière chose, c'est vraiment, je pense, sur la piste le plus racing de tous les pilotes. Enfin, il est vraiment son histoire, elle est incroyable à ce niveau-là. Il est passionné par ça, comme Verstappen qui joue même quand il n'est pas au volant. Et Esteban, c'est un fou de Gran Turismo. Enfin, c'est vraiment un passionné à fond. Donc moi, je pense que ce n'est pas hyper gênant pour Alpine. Et côté Gasly, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que dans cette grisaille ambiante, c'est un petit rayon de soleil parce que maintenant, il va être un peu mis en valeur. Et je pense que déceler chez Pierre que c'est quelque chose dont il a un peu besoin d'être celui qui est aimé, qui est bien mis en valeur. Je pense que coucouner Pierre, ça va être une très bonne chose pour Alpine parce qu'on va avoir un grand Pierre. Et ne pas coucouner Esteban, pour le coup, lui, je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Et que finalement, comme il se barre, ça va très bien se passer aussi.
Comme l'avait fait un peu AlphaTauri, tu penses?
Ouais, je pense.
Mais moi, ce que je trouve quand même dingue, c'est que depuis le début de la saison, quand il y a eu des améliorations du côté d'Alpine, ça a été Esteban Ocon qui a été prioritaire sur les améliorations. Ça n'a pas été Pierre Gasly. Et là, il y a eu cet épisode Monaco. Ils ont tranché dans le vif, comme a dit Bruno Famin. Et c'est Esteban Ocon qui part de l'écurie. Moi, je trouve que...
Parce que l'été était pipé depuis longtemps.
Oui,
vous avez la raison.
Mais un constat que je trouve intéressant, c'est que je trouve que Alpine ne sait pas forcément gérer les grosses têtes au sein de son écurie. Que ce soit Ocon, quand il y a eu Alonso, tout ça. Et je trouve qu'il y a vraiment du mal à gérer ces grosses têtes. Et c'est peut-être ça qui leur manque un peu pour s'élever, et d'autant plus que Bruno Famin n'a pas
voiture,
une grande expérience.
Accessoirement,
oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est encore autre chose. Il y a des écuries qui fonctionnent un peu moins bien, et pourtant le leadership d'un pilote est très bien géré, tu vois.
Bah déjà, ton team principal, il change assez régulièrement ces derniers temps. Donc, pour instaurer un management...
Mais même les teams principales, quand il y a eu Abidoul et tout ça, qui ont des grosses têtes, ça n'a pas fonctionné.
Et puis, attention, je ne sais pas si Jack Doohan est leur plan A pour la saison prochaine. attention à ne pas perdre aussi ton pilote réserve. On a déjà vu que c'est arrivé par le passé.
Ouais, sûr.
De perdre le crack générationnel.
J'ai revu la photo. Là, une photo d'Alpine il y a quand même pas deux ans. T'as Alonso, Piastri, Ocon, les trois, ils ont dégagé. Là. C'est vrai que ça fait un peu mal quand tu te dis que t'avais un des deux meilleurs Français de la génération. L'Espagnol Alonso, qui est peut-être un des plus grands de l'histoire. Piastri, qui était la promesse générationnelle. Et là, boum, plus aucun.
Et les trois sont partis sur choix du pilote.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a été mis dehors. Et ça veut clairement... C'est même ça, je pense, le plus significatif dans ces choix-là. C'est que c'est un choix pilote.
Les amis, parlons un petit peu de ces rivalités. On en a beaucoup parlé, Ocon, Gasly, bon, il y a bien évidemment pas que. Et ça a rythmé l'histoire de ce sport depuis bien longtemps. Moi, je voulais vous entendre sur ça parce que on était en train un petit peu de l'aborder là, sur aussi ses patrons, le team principal de l'équipe qui doit gérer quand il y a deux égos très forts, avec deux envies de performance, que ces rivalités sur la piste deviennent aussi des rivalités humaines parce qu'il y a des pilotes qui en sont venus à se détester. Peut-être après des incidents qui sont survenus en piste. Donc je voulais vous entendre sur ça. Et Hamza, pour toi, est-ce que tu peux me parler là des grandes rivalités de l'histoire de la F1? On préparait l'émission tout à l'heure, tu me disais pour moi la plus grande, c'est Hamilton-Rosberg.
Au 21e siècle, parce que je n'ai pas connu le 20e siècle. Les Hunt, Lauda, je n'ai pas connu. Les Prost, Senna, je n'ai pas connu.
On en reparlera avec Jean-Luc.
Tout un paquet, ouais, voilà. Effectivement. Et je sais que Jean-Luc, en écoutant ce podcast, il va se tirer les cheveux en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?»
C'est quoi ces bandes de jeunes là?
Ils connaissent pas la F1, bordel.
Il y a l'histoire de la Formule 1, l'histoire qu'on va te raconter à travers des films, des documentaires, des événements, des séries, peut-être même la fibre familiale. On va te raconter, voilà, 1977, c'était ça, 1989, c'était ça. Ok, mais le fait de le vivre, ça veut dire que tu as l'intensité, tu notes course après course l'évolution de l'intensité dramatique, notamment pour Rosberg Hamilton. Mmh. Et puis toi, ton investissement émotionnel qui évolue là aussi course après course. C'est pour ces raisons-là que je place Hamilton-Rosberg, qui est évidemment une rivalité que j'ai connue, en tout premier plan. Même si on pourrait me dire, par exemple, que Hamilton-Alonso, c'était aussi très fort. Sportivement, je ne sais pas si on a connu, je vais parler du 21e siècle, je ne sais pas si on a connu plus fort que Hamilton-Alonso. Mais Hamilton-Rosberg, c'est une histoire qui débute en karting, enfant, et qui se conclut avec, en 2016,
moi,
avec le titre
ça,
de champion Rosberg. Et ça, c'est une histoire, honnêtement, on peut en faire un film.
C'est ça. Pour moi, la différence, elle est là parce que, si tu veux, on connaît tous le poncif que vont te répéter chaque pilote. Ton premier ennemi, ton premier adversaire, c'est ton coéquipier.
Ouais.
Donc finalement, une rivalité entre coéquipiers dans le sport auto, quand tu sais comment ça marche, quand tu sais comment t'obtiens des sponsors, toutes ces choses-là, finalement, c'est la chose la plus banale et évidente possible. Tu mets deux humains et tu leur dis vous êtes deux, il y en a qu'un qui ils vont pas se piffrer. Mais celle-là, la différence, c'est que tu pars de deux jeunes amis, meilleurs potes, et ça va se déchirer. Donc là, comme dit Hamza, t'as toute une dimension romanesque presque.
Et puis même à côté de ça, t'as une pression médiatique qui est complètement énorme, voilà, et qui n'était pas celle d'avant, en fait.
Et puis ça part et que ça compte. Au début, ça part bien et ça joue sur le podium, ça se fait des blagues.
2014,
et tout,
voilà. et que je te taquine et que je te touche.
Tout ça pour que la
premier deuxième, c'est génial. Ouais,
après la cool room, bam, je te balance la casquette en Autriche, quand le dernier tour, c'est en Autriche, je crois. Enfin, ils font un dernier tour à touche-touche là, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a le résumé de la saison du diffuseur à l'époque. De ces années-là, les trois années en fait, Rosberg-Hamilton, les résumés sont incroyables parce que justement, ils font vivre aussi tout l'extra-sportif et de comprendre cette tension quotidienne qui d'ailleurs fait arrêter Rosberg à la seconde
c'est que
où
Rosberg,
il a le titre.
Il est tellement rôti à la fin qu'il prend sa retraite. Quoi.
Exactement, et ça je pense que c'est unique aussi. Quoi.
Et je lui en veux pour ça.
T'aurais aimé qu'il pousse un petit peu.
Mais bien sûr. En fait, on a eu Hamilton vainqueur. Alors nous, on ne l'a pas connu, karting, etc. Dans toutes les catégories inférieures, Hamilton gagne. 2014, Hamilton gagne. 2015, Hamilton gagne. 2016, Rosberg gagne. Là, ce qu'on veut, c'est la suite. On est au sommet du sommet du sommet de la rivalité.
Il manque la dernière
fin
saison
2016.
À cette série.
Et en fait, d'un coup, tu prends un mur parce que c'est terminé. Et lorsque Rosberg annonce sa retraite une semaine plus tard, je pense au trophée, enfin à la cérémonie.
Il l'annonce à la cérémonie, ça aussi.
Cinq jours après.
Honnêtement, Et puis en plus, déjà le contexte à ce moment-là était tendu parce qu'Hamilton avait eu un comportement que Mercedes juge inacceptable à Abu Dhabi en ralentissant volontairement pour faire perdre potentiellement une position à Rosberg. T'as les déclarations de Niki Lauda qui dit écoute, c'est la première et dernière fois, sinon en gros, tu te cherches une autre écurie. Ouais. Dès l'annonce de la retraite de Rosberg, oh Lewis, on comprend, c'est le pilote qui a agi à ce moment-là, on peut se mettre à sa place. Il nous manque quelque chose. Et bon, après, c'est sa vie, évidemment, c'est lui, enfin, ce sont des gladiateurs, ils sont tous, c'est eux qui prennent les risques. Mais dans mon histoire, il me manque un petit quelque chose.
Mais d'autant plus que les années d'après, t'as Vettel avec Ferrari qui revient, donc ça aurait pu faire une bataille à trois complètement magnifique.
Romain, toi, ta rivalité un peu là qui t'a marqué ?
Bah, il y a Hamilton-Rosberg, c'est sûr, mais j'ai beaucoup aimé la rivalité Alonso-Lewis Hamilton parce que c'est un peu les premières années où moi, personnellement, j'ai suivi la F1. Et,
c'est quoi, on est en quoi, 2007 ?
2007, ouais, et t'as McLaren qui recrute Fernando Alonso, qui est déjà double champion du monde en titre, du coup, avec Renault. Donc, il est là pour apporter son expérience un peu, son talent et tout ça. Et en même temps, t'as une jeune recrue britannique qui arrive, Lewis Hamilton, qui fait ses débuts en F1, du coup, avec l'équipe. Et malgré le fait que ça soit sa première année, en fait, il montre déjà l'étendue de son talent. Donc, dès la première saison, tu as Hamilton qui impressionne tout le monde en faisant des podiums,
dès le premier
des
virage
wins.
Même.
Et Alonso, il essaye aussi, mais en fait, c'est une dynamique où c'est pas bon pour l'écurie d'avoir ces deux pilotes qui se tiennent la bourre et qui, au final, vont se retrouver perdants parce que c'est Kimi Raikkonen qui va gagner le championnat parce que Alonso et Hamilton se tiennent la bourre tout au long de la saison et au final Alonso décide à l'issue de l'année 2007 pardon, de quitter McLaren après seulement une saison et revenir chez Renault.
Non mais je crois qu'il y a des histoires en plus pendant
cette année
la saison
2007 ou... ouais, elle débouche quand même sur l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Formule 1 avec le Spygate hein.
Bah oui.
Totalement. C'est quoi l'amende ? 100 millions de dollars ?
Ouais.
Je crois qu'ils ont pris.
C'est ça. Non,
c'est une amende totalement record.
Ça change de ton billet de 50 balles, Nico.
Ouais, on n'est pas dans les mêmes sphères.
Puis même, t'as les tensions.
Je demandais à RMC, il peut peut-être nous financer comme ça.
Voilà.
Mais même, t'as les tensions à Monaco où t'as des pilotes qui sont priorisés au niveau de la stratégie et inversement. Et
moi, je me souviens, je crois que c'est en Hongrie, mais il me semble. Mais t'as pas Alonso qui retarde, qui fait exprès de retarder.
Il l'empêche de faire son dernier tour rapide et du coup il se fait pénaliser quand même derrière mais c'est vrai que c'était une des grandes affaires et Hamilton par rapport à Monaco à la fin il dit qu'il est mécontent dans la presse et je trouve que ça marque un peu la transition entre l'ancienne génération de pilotes et la nouvelle en termes de médiatisation où tu sens que c'est le pilote qui prend la parole et qui affirme ce côté un peu people que n'avaient pas avant ses pilotes. Et je trouve que ça marque
Lewis,
un peu cette transition.
Lewis, il venait d'arriver, il disait au tabloïd d'anglais qu'il était numéro 2, que c'était
c'est
un scandale. Alors que devant lui, il y avait Alonso.
Il y avait juste un double champion du monde.
Ouais, c'est vrai que Hamilton-Alonso, c'est pas mal. Et toi, Louis ?
Évidemment, on les connaît toutes les plus fameuses. Du coup, moi, je voulais parler d'une, je dirais, qui a pas eu le temps de prendre, mais qui aurait pu être belle récemment. C'est Leclerc-Vettel. Parce que Leclerc-Vettel, pendant un an ou deux, tu as un peu des similitudes avec Alonso Hamilton, c'est-à-dire que tu viens mettre une pépite à côté d'un champion du monde ultra confirmé avec une voiture qui peut gagner. Et le problème, c'est que malheureusement, au gré des évolutions, Ferrari n'est pas resté, si tu veux, au top pour que ça devienne encore plus fou. Mais on se rappelle quand même que la dernière année, ça commence à chauffer fort. À Singapour, quand ils font sortir Vettel, où ils undercut Charles et Vettel se retrouve premier et gagne le Grand Prix dans la radio de Charles, ça fume très très fort. Et heureusement, Vettel était aussi un peu plus vraiment sur le départ, espérait peut-être plus grand chose de sa carrière et a su ne pas péter un plomb non plus et respecter Charles. Mais je pense qu'on était tout proche, que ça s'envenime peut-être avec une saison de plus, et peut-être qu'Aston Martin est arrivé au bon moment. Et je pense que très récemment, c'était peut-être la rivalité qui aurait pu être la plus croustillante pour nous. Et finalement, elle est restée à l'état de bourgeon, quoi. Elle n'est jamais devenue...
Ouais, mais au final, ça s'est bien parce que tu as Vettel quand même qui laisse un beau message à Leclerc.
Oui, mais je pense que c'est parce que Vettel, si tu veux, il est dans une période de sa carrière. Le Vettel fin Red Bull, ça aurait pas été la même. Multi-21, ouais, Seb.
Il y en a une dont on n'a pas parlé, et moi, qui m'a un peu marqué, c'est chez Red Bull, c'est Vettel-Weber.
Ouais. Exactement.
C'est pas une rivalité, c'est un équarrissage.
Multi-21, Seb.
Parce que eux, ils pouvaient vraiment pas se piffrer, Hamza.
Ah ouais, non, mais...
Mais en plus, dès les premières semaines de collaboration.
Vettel, c'est l'enfant Red Bull. Donc, alors déjà, t'as 2009, voilà, il y a Brown qui l'emporte avec Jenson Button, même si Red Bull revient fort sur la fin. 2010, il faut se rappeler qu'Abu Dhabi, dernière course, c'est la première année, je crois, en plus du nouveau système de points avec les 25 points, 18 points, 15 points. On se retrouve avec 4 pilotes qui jouent le titre. Alonso est en tête devant Mark Webber, Vettel et Hamilton, qui, je crois, était très loin, mais mathématiquement pouvait. C'est ce qui veut dire que pour empêcher Fernando Alonso de remporter le titre, le pilote le plus prompt à le faire, mathématiquement, c'est Mark Webber. Et du côté de Red Bull, on va se servir de Mark Webber pour envoyer Alonso sur une stratégie, ce qui va profiter à Sébastien Vettel pour lui, qui va remporter le titre, alors que sur toute la saison 2010, Vettel n'a jamais été une seule fois leader du championnat. Et puis après, effectivement, tu as des événements en course, le Multi 21 en Malaisie en 2013, l'année en tête.
Surtout, ce que je disais à Romain avant, c'est les années en fait où ça fait pas longtemps que c'est passé sur Canal. Et moi, je suis encore chez mes parents et du coup, j'ai pas Canal. Et donc, c'est les années que j'ai moins de suivi, tu vois. Il a fallu que j'arrive chez moi pour avoir Canal et re-suivre.
C'est 2013, la première année de Canal et la dernière année de Vettel-Weber. Et Weber était pote avec Fernando Alonso, donc. Écoute, moi j'appellerais pas ça une rivalité, sincèrement. Une rivalité pour moi, c'est quand même plusieurs degrés au-dessus. Ce sont des. Si on parle d'un temps un peu plus ancien, c'est Villeneuve-Pironi, même si malheureusement ça a duré bien trop peu. On rappelle que très, très rapidement, Villeneuve est en tête, je crois, c'est à Imola. Et devant Pironi, parce qu'il y a un abandon, je crois que c'est Arnoux qui abandonne juste devant, et t'as un panneau du côté de Ferrari, slow. Donc on demande aux deux pilotes de figer les positions concrètement. Sauf que Pironi, lui, va dépasser Villeneuve. En tout cas, l'histoire qu'on nous a racontée, c'est que Villeneuve, il pense à ce moment-là que Pironi le fait pour le show, pour divertir un peu le public. Sauf que Pironi, va l'emporter. Et Villeneuve, qui avait de bons rapports avec Pironi, il lui pardonnera pas. Sauf que le Grand Prix suivant, malheureusement, c'est ce qui.
Dès la fin de la course, il dit à Ferrari qu'ils peuvent trouver un autre pilote dès maintenant. Quoi.
Mais si aux jeunes auditeurs, regardez ça sur YouTube, parce que des tours comme ça en F1, c'est.
Ah bah non, mais après, on va pas parler de la rivalité entre Prost et Senna, bien évidemment, chez McLaren. Pour ça, tiens, allez écouter le Panthéon RMC. Il y a un épisode spécial Ayrton Senna. Ils reviennent longuement avec Jean-Luc d'ailleurs sur cette rivalité. Mais moi, je l'aimais bien, mon Mark Webber, parce qu'il balançait quand même des petites punchlines. Alors à l'époque, il n'était pas avec Vettel. Mais non, mais je crois que.
Australien, mais très anglais.
Ouais, il y a un grand prix où la Toro Rosso de Vettel vient le percuter. Il dit c'est comme ça, les gosses. Oui. Hein, il dit ils bossent bien, et puis d'un coup, ils font tout foirer.
C'était où ? Je crois que c'était au Mont Fuji. C'était le.
Ouais, c'était au Japon, c'est
folle,
ça. Japon 2007.
Avec une piste détrempée, il pleuvait. Je crois que c'est ce même GP où tu as une arrivée incroyable entre Massa et Hamilton, je crois. Je crois que c'est le même GP. Et effectivement, il avait été assez virulent à la radio, Mark Webber. Mais en fait, Mark Webber parlait, il n'hésitait pas à s'exprimer. Maintenant, quand sur 4 ans, tu es avec Sébastien Vettel et que sur 4 ans, mine de rien, sportivement, tu n'arrives pas à lutter, à l'exception peut-être de 2010.
Oui,
tu parles, mais l'histoire retient que c'est le Sébastien Vettel qui, à l'époque, était insolent, insupportable aux yeux du grand public. C'est vrai que son image, là aussi, elle a changé.
Cette évolution, elle est incroyable aussi.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était le petit enfant insupportable qui était vraiment pouponné par la structure Red Bull.
Ouais, l'esprit Verstappen.
D'ailleurs, Verstappen, ça va être ça. Le jour où il quittera Red Bull, peut-être que aux yeux du grand public, ça deviendra un homme beaucoup plus. Il a l'air drôle.
Même là, c'est différent.
Franchement,
ses débuts, Verstappen,
il a l'air très sympa, ce gars.
C'est depuis la bataille avec Hamilton.
Il a l'air vraiment agréable. Ouais. Je pense que la première saison de Netflix lui a pas fait du bien en termes d'image.
La première saison de Netflix, quelques moves en piste aussi, quelques.
Mais tu le fais, tu le fais un peu passer pour un robot, alors que c'est quelqu'un qui est plutôt, comme disait Hamza, sympa, qui est drôle, qui aime bien rigoler, qui fait des trucs avec ses potes, qui est streamer, voilà quoi. Et dans le paddock actuel là, sur la grille là, hormis Ocon Gasly, pourquoi c'est Pour vous, c'est laquelle la rivalité un peu sympa à suivre? Il y en a des. Moi, Ricardo Tsunoda, j'aime bien. Bon, il y en a pas trop au final, mais.
Albon Sergeant.
Ouais. Mais en fait, tu sais qu'avec Ricardo, du coup, finalement, parce que tu en parlais tout à l'heure, Romain, finalement, c'est des rivalités qui. Le mec est tout le temps en train de sourire et tout le temps positif dans ses discours, qui fait que les rivalités, du moins en surface, reste que en piste en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça dépasse jamais vraiment, même avec Norris, je me souviens, tu sais, quand c'était dur pour lui, Norris disait, bah non, bah moi je le bats en piste et je lui donnerai pas un dixième en piste ou je l'aiderai pas parce qu'on est coéquipier de F1, mais en fait j'ai aucun souci avec Daniel, on s'entend très bien.
Même avec Verstappen, ils s'entendaient très bien et au final, et voilà, c'est donc, des incidents de piste et t'as Christian Horner et Helmut Marko qui désinguent les deux auprès des médias pour les calmer un petit peu et puis finalement, sachant que Ricardo était là quand même depuis 2013 ou 2014 en tant que pilote numéro 1 et est un petit jeune du nom de Max Verstappen qui vient.
Mais Nico, pour répondre à ta question, le petit pétard mouillé pour moi c'est Hülkenberg Magnussen parce qu'on se rappelle du coup du Suck My Balls pour voilà, on le bipera aussi, on le bipera en post-prod.
Heureusement les auditeurs ne parlent pas anglais.
et donc du coup on se rappelle de ça et on s'attendait à quelque chose sûrement de plus explosif. Ça c'est dû aussi au fait que quand t'es derrière, t'as moins de raisons de te mettre dessus. Voilà, au dernier quand même le petit unnecessary, mais voilà, c'est mignon quoi. C'est, enfin je veux dire, il aurait pu dire il a encore fait n'importe quoi, j'en peux plus de ce coéquipier ou quoi. Enfin non, ils ont rangé les épices ces deux-là. C'est un peu dommage.
Moi j'en attendais plus de Hamilton et Russell. Je me suis dit qu'Hamilton il est dézingué à tout va et en fait
non, il dézingue la bagnole maintenant. Il a changé de son fusil d'épaule.
De toute façon, il en a marre, il a envie d'aller chez Ferrari. Mais Magnussen, je pense que c'est avec tout le monde, hein. C'est avec tous les pilotes. Tous les pilotes n'apprécient pas forcément Magnussen. Tous les pilotes, à chaque fois qu'il y a un accrochage ou quoi que ce soit, ils le disent. Ce mec, c'est un danger, c'est un danger sur la piste.
Il est un peu rugueux. Scandinave, quoi. Ouais. Voilà. Bon, les gars, merci beaucoup.
Il y en a une qu'on peut évoquer. Ouais. Je fais une projection sur l'avenir.
Ah,
Norris Piastri.
Mais c'est la prochaine.
Je pense qu'il y a un potentiel. Si les deux restent ensemble quelques années, il y a un potentiel très très fort sur une rivalité explosive entre Norris et Piastri, parce que tu as deux pilotes jeunes, deux pilotes très rapides. Il y en a un qui est l'enfant de McLaren, qui est Lando Norris, sauf que tu as à côté Oscar Piastri qui est considéré comme un talent à l'image de Hamilton, Verstappen lorsqu'ils sont arrivés en Formule 1.
Faudrait que Vettel devienne l'agent de Norris, comme ça on aurait.
Mais c'est surtout que Piastri pour l'instant il est calme et il prend de l'expérience parce que c'est que sa deuxième saison.
Lui aussi, Maxime.
Mais le moment où il va s'affirmer et il va prendre du leadership, ça va être tout autre.
Pour l'instant, ils sont plutôt potes, hein.
Quand il n'y a pas un championnat en jeu, Hamilton et Rosberg, ils étaient potes aussi. Hein.
Ouais. Puis, bien sûr. Non, mais c'est vrai que sportivement, en tout cas, c'est peut-être la rivalité.
C'est vrai que
plus,
clairement, demain, aujourd'hui, avec la voiture qu'il y a, leur parcours, leur profil, le fait que ils veulent tout, c'est encore les jeunes loups là, c'est-à-dire qu'ils veulent le championnat du monde, tout ça. La voiture est au niveau. Clairement, l'année prochaine, ça peut être une rivalité incroyable et pour le coup, du coup, qui peut être construite parce qu'ils sont jeunes. Donc ça peut durer encore
et
des
si
années.
Ça doit déraper d'un côté, je vois plus Norris prendre le seum de Piastri que Piastri aussi, prendre le seum de Norris.
Parce qu'il est quand même un peu plus le bébé McLaren, il est arrivé avant. Et même sur les personnalités, je vois bien aussi, je suis d'accord avec toi.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces rivalités, la plupart du temps, c'est pour le titre de pilote, où c'est à chaque fois, en fait, c'est psychologiquement, il y en a un qui éteint l'autre, il le bouffe complètement. Et c'est là que se fait la différence. Et c'est là que se relève la vraie mentalité des pilotes à ce moment-là.
Non, mais moi, j'attends la prochaine histoire drôle, l'histoire marrante, tu vois, un peu comme. Il y a eu Prost-Mansell où les deux sont chez Ferrari lorsque Prost arrive en 90 chez Ferrari. Et Mansell soupçonne Ferrari de privilégier Prost parce que Prost a appris l'italien et parle en italien avec les ingés de Ferrari. Ouais, et du coup, Mansell, il est persuadé.
Il lui a volé un châssis, quoi.
Et il est persuadé que chez Ferrari, à l'époque, on avait favorisé Prost et Mansell quittera la Scuderia l'année suivante. Donc voilà, il nous manque un peu
Hamilton l'année prochaine chez Ferrari faire un petit truc comme ça peut être sympa, hein.
C'est vrai qu'Hamilton avec Leclerc,
Leclerc Hamilton, ça peut être pas mal, hein.
Les petites parano de pilotes, c'est toujours marrant. Ricardo est très comme ça d'ailleurs. Ricardo, ça fait 3-4 coéquipiers, à chaque fois on lui donne un châssis qui est pas bon, c'est quand même bizarre ça.
Et puis il y a des histoires Gasly Verstappen où du jour au lendemain entre une séance de d'essai qualif, il y a le nouvel aileron de Gasly qui, oups, il est passé de l'autre côté
ça
du garage parce
coup,
que Verstappen avait fracassé le sien. Ça peut arriver aussi. Hein.
Oui, je pense était arrivé aussi avec Weber-Vettel et qu'avait mal vécu Marc Weber.
Mais je pense que pour Leclerc et Hamilton, ça, la chose qui va faire évoluer leur relation, c'est que si Leclerc parvient à revenir cette année au championnat contre Verstappen, Leclerc va le sentir et il peut attraper le titre de champion du monde, sachant que Lewis Hamilton il veut simplement juste
le
8e
avant de partir
et après se barrer à la retraite et faire ses projets perso. Mais si Leclerc se met en tête que ça y est, c'est bon, c'est le bon moment pour aller chercher le titre de pilote de championnat du monde, de champion du monde pardon, là ça va être tout autre chose.
c'est le signe qu'il faut arrêter le podcast.
Ouais, terminé.
Très bien, et ben on va arrêter. Voilà, c'est le signal.
Non, mais l'avenir,
gars,
l'avenir est radieux, hein, franchement, avec ce qu'on vient de dire. S'il y a Piastri, Norris, Leclerc, Hamilton l'année prochaine, ça peut être génial. Hein.
Ouais, ça peut être top. Ça peut être top. Si vous nous avez écouté, n'hésitez pas en commentaire. Vous nous mettez un peu votre future rivalité qui vous fait saliver. Si vous avez des anecdotes aussi, on les relaiera dans les prochains paddock RMC. Prochaine course à Montréal dans une semaine, les gars. Je voulais remercier Romain. C'est peut-être son dernier podcast avec nous. Il arrive à la fin de son stage, l'ami Romain. C'est à chaque fois, c'est lui qui nous fait les prods et tout ça. Il a plein d'idées. Super actif sur le groupe WhatsApp. On t'embrasse, Romain. On va peut-être te retrouver.
Merci. On te salue.
J'espère. Hein. J'espère en tout cas très vite.
On sait pas trop.
En tout cas,
si
c'est
jamais
un plaisir,
plaisir
de parler F1 avec Romain et pourquoi pas à l'avenir. Ouais. Du coup, on l'espère.
C'est clair. Mais si jamais la direction nous écoute et qu'ils sont fadés les 50 minutes de podcast, n'hésitez pas. Hein, il a été super bon, Romain. Ouais. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Et vive Lewis.
Ciao. Ciao tout le monde.
Ciao.
Le paddock RMC.